La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Désolé, Pierre-Yves, ça s'est étiré avec Philippe.
Oui.
On n'était pas d'accord. OK, parle-nous des concepts de revenus viables vis-à-vis le salaire minimum.
Oui, cette semaine, on va avoir le salaire minimum qui va augmenter à 15,75 $. Et il y a souvent des débats dès qu'on augmente le salaire minimum ou comme ce matin, dont on parle d'un revenu viable défini par l'IRIS. On a souvent l'erreur de dire « Ah, comment ça fait que les gens n'arrivent pas avec ce salaire-là? » Et il faut être bien conscient d'une chose. Le salaire minimum, ce n'est pas un salaire élevé, c'est un salaire légal minimum pour empêcher des compagnies d'engager des gens en dessous d'un certain niveau. Donc, c'est interdit.
Ce qu'on a vu un matin, Pierre, Pierre-Yves, dans les nouvelles, c'est qu'il y a des gens qui se font quand même embaucher à 10$ de l'heure.
Ça, c'est un autre enjeu, un autre débat, mais légalement, quand tu es à l'heure, normalement, puis tu n'es pas un employé payé à l'année, ton revenu minimum à partir du 1er mai, si tu n'es pas pour boire, c'est 15,75 $. Est-ce que c'est assez pour te distinguer de la masse, pour atteindre le prix d'équilibre? Non. Ça veut dire que s'il y a une masse de 100 personnes qui sont prêtes à acheter un légume ou qui sont prêtes à acheter une maison ou de payer pour un service, c'est plate, notre système, comment il est fait. Puis je suis d'accord, de côté purement humain, on devrait tous être égaux. Et d'un point de vue économique, comment ça marche, c'est le point d'équilibre entre tous ceux qui sont prêts à payer ou capables de payer et ceux qui sont incapables de payer devient le prix de marché. Et donc, ici, quand on parle du revenu viable de l'IRIS, c'est-à-dire le revenu selon lequel l'IRIS décide qu'on devrait être capable de vivre au Québec, ou le salaire minimum, ben ce ne sont pas des revenus que tout le monde peut être garanti de gagner à cause de ça. C'est qu'après ça, ça déplace la courbe. Comme par exemple, si aujourd'hui, ou le 1er mai, on atteint 15,75 $ au salaire minimum, ça veut dire que la capacité de payer minimale des gens, les payer au minimum de la société, vient d'augmenter. Et donc, ça déplace la courbe temporairement, ça prendra quelques mois à s'ajuster, mais on aura le même problème plus tard, et c'est ce qu'appelle dans les grandes sociétés économiques l'inflation, Patrick. Mais ce qui est intéressant d'études de l'IRIS, c'est de dire, OK, combien ça prend par région pour vivre? Et ça, c'est vraiment une lecture intéressante parce qu'on parle de paiement par région après impôt. Donc, on est en train de démontrer, dans le fond, que la différence entre Montréal, Québec, Gatineau n'est pas si grande que ça. On parle à peu près de 2-3 000 $ entre trois villes pour une personne célibataire. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'au Québec, qu'on soit tout seul dans trois grandes villes au Québec, on aura à peu près le même coût de vie pour être capable de payer ces choses au minimum. Le problème, c'est évidemment que, Patrick, le salaire minimum, là, présentement, là, temps plein, 40 heures semaine, plus de 50 semaines par année, c'est 32 000 et quelques poussières à partir du 1er mai. Mais c'est certain qu'ils se sont dit que le revenu minimum est à 37 000, 38 000 à Montréal. Ça veut dire qu'une personne doit aller chercher 6 000 $ de comment de partage de coûts de loyer, de banque alimentaire, d'aide du gouvernement au niveau des allocations.
Une job de plus.
Des heures de plus, peu importe. Mais je ne suis pas en train de minimiser ce que c'est. Tu sais, quand je regardais le montant, je me disais, c'est fou, hein, comme père de famille qui a un paiement hypothécaire, un paiement de voiture, il faut que bien plus que ça pour arriver. Donc, même quand on me dit à Montréal, là, deux enfants, deux adultes à Montréal, 82 000. Écoute,
total.
Ça c'est total, mais ça, c'est après impôt. Donc, c'est avec l'aide du gouvernement, okay. C'est 82 000 de revenus après impôt, donc disponibles. Je te dirais que c'est même là, 82 000, si tu as payé un immeuble ou un condo, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de restaurant toutes les semaines, il n'y a pas d'activité spéciale, il n'y a pas un iPad pour le dernier. Et ça, c'est l'angle mort de tout ça. Je trouve que la technologie d'aujourd'hui amène des coûts sociaux importants.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
T'as beau dire là que, OK, le minimum pour vivre, c'est bon, mais si mon gars est dans une classe à l'école, puis qu'à l'école, tout le monde a un jeu vidéo, tout le monde a un iPad, ou tout le monde a accès à une certaine technologie renouvelée, les coûts technologiques font partie de la vie. Et donc, ça, c'est la différence avec une autre époque. Avant, dans mon jeune temps, Patrick, Si t'avais un ordinateur dans ta famille, c'était déjà bon. Là, ça t'en prend plus qu'un par famille parce que tout le monde se fait dire à l'école, faut faire des devoirs à l'informatique, faut être rejoignable par l'employeur par téléphone cellulaire, faut vivre sa vie collective par la technologie. Et donc, je dirais qu'il y a une bonification du coup par ça. Parce que toute réparation aujourd'hui est chère. Je te donne un exemple. Mon gars a brisé un iPad une fois. Je me suis dit, OK, je vais en acheter un. T'sais. Mais quand tu penses à une famille qui se fait dire, bon, à deux, là, faut que vous arriviez avec 81 000 à Montréal. Tu te dis, attends une minute, 81 000, un iPad qui vient de rentrer, c'est un 500$.
Hey, l'inscription au sport, à la danse, etc., pour les enfants.
Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que dans les études qui montrent, ou l'étude de l'IRIS, on dit qu'il y a des postes budgétaires pour ce genre d'affaires-là. Par exemple, ça s'appelle le poste de participation sociale. Et donc, les activités, il y a aussi un poste pour l'épargne, un poste pour le fonds d'urgence, mais le poste participation sociale est intéressant. Au lieu de dire dépenses diverses, on dit et participation sociale. Parce qu'effectivement, dans ton demi-sous-sol, tu partages les revenus, tu as un petit loyer pas cher, mais tu es chez vous. Tu ne participes pas nécessairement à la société quand tu ne peux pas dépenser dans la société.
Question sur l'IRIS, l'Institut de recherche...
Oui, j'oublie, on le cherche tout, mais regarde, en information socio-économique.
Parfait. C'est un think tank, comme oui. On dit, de gauche. Okay?
Puis qui est l'opposé de l'Institut économique.
Voilà. Est-ce que généralement, tu trouves que sa méthodologie, sa démarche, ses conclusions, c'est crédible?
Je pense qu'ils ont des champs de recherche qui sont en ligne avec leurs valeurs et leurs missions. Et donc, on cherche aussi à démontrer qu'il y a des gens qui souffrent au Québec, qu'on doit les aider davantage. Je peux être d'accord avec cette mission-là. Les petits enjeux de méthodologie, Patrick, c'est qu'on dit cette année, les données, par exemple, au niveau de la SCHL pour les logements, ça tient pas compte des logements nécessairement qui sont alloués. Et donc, c'est sous-pondéré. Donc, on est allé chercher d'autres données pour surpondérer la valeur des logements alloués en disant, c'est bien beau le monde qui ont déjà un logement, mais il se peut que dans la gang, on a des gens qui cherchent des logements et donc le revenu viable devrait être un petit peu plus élevé. Donc, on est allé chercher une portion de ces données-là. Je suis pas contre, mais c'est un choix éditorial. Mmh. Tout comme dire aux gens, aux nouvelles, puis là, c'est repris par d'autres médias, que le revenu viable est à un certain prix, mais que là-dedans, tu comptes un pourcentage d'épargne et de coussins. Là, tu te dis, attends une minute, c'est le revenu pour survivre ou pour survivre et se créer quelque chose? Et donc, tu sais, on peut argumenter longtemps, mais je dis tout le temps aux gens qui chialent un peu de ça, je dis... Je vais être honnête avec vous, là. Je vous mets deux semaines dans ce genre de budget-là, une fois que tu as goûté à un autre genre de budget. Tu sais, Patrick, je paie énormément d'impôts. On est le 30 avril demain. Je peux te dire qu'il y a. Ce matin, j'ai fait mon chèque. Puis je me dis, c'est sûr, là, je sacre, là. J'ai fait tous les mots d'église en lien. D'un autre côté, je me suis dit, comme disait mon grand-père, si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu fais plus de l'argent que la moyenne. Et donc, tu es au-delà du point d'équilibre dont je te parlais tantôt. Mais quand même, au Québec, avec le gain en capital imposable, la TPS-TVQ, les taxes foncières, les assurances que tu dois payer comme propriétaire, l'aide que tu reçois pas dans l'allocation canadienne pour enfants, en allocation famille, tu payes du RQAP même si c'est pas 38 000 enfants. À un moment donné, le payeur de taxes québécois est tanné aussi. Et je pense que le sweet spot fiscal, c'est ni d'être dans ceux qui reçoivent énormément, qui survivent, ni d'être dans ceux qui payent la totale. Il y a comme un jeu dans le milieu, là, où ton train de vie est moyen, que des actifs sont payés, puis que l'impôt te mange pas trop. Je pense que c'est ça, ce que j'appelle le sweet spot fiscal. Là, t'sais.
Merci, Pierre.
Salut.
On va se retrouver demain.
C'est 23.